Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Au cours de mes différents reportages et au fil des années, j'ai rencontré un grand nombre de communautés religieuses, expressions de réalités extrêmement diverses, monastiques et apostoliques. Mais toutes ont en commun, comme le dit Père Jacques Chérubin, délégué épiscopal à la vie consacrée, cette même vocation à suivre et à imiter le Christ Jésus en toutes choses. Le 2 février, jour de la présentation du Seigneur, est aussi pour l'Église journée mondiale de la vie consacrée. Et à cette occasion, je vous propose de redécouvrir quelques-unes de ces vies données à Dieu et à tous. Premier de ces visages, celui de Marie, carmélite de Saint-Joseph, rencontrée un début d'été au sanctuaire de Saint-Guilhem-le-Désert. Dans ce haut lieu de pèlerinage, aujourd'hui au lieu du tourisme, vit depuis 1978 une communauté de la Congrégation des Carmélites de Saint-Joseph. Leur mission ? Maintenir une présence priante et accueillante pour tous et pour chacun. Sœur Marie et sa vocation de carmélite de Saint-Joseph.
Alors moi, c'est compliqué. Catherine, arrête. Moi, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été amoureuse. J'avais un cœur d'artichaut. Mais je me rendais compte que, à la fois, c'était quelque chose de très sensible en moi, et voilà, toujours amoureuse. Mais en même temps, en face de moi, c'était jamais la personne qui allait me combler. Et puis, j'ai eu une expérience qu'on dirait spirituelle, mais j'ai envie de dire pleinement humaine, pour le coup. C'est que j'ai été... le prêtre de ma paroisse a changé. J'avais 20 ans. Je passais mon bac, donc j'avais déjà redoublé deux fois. Hein, j'avais un circuit scolaire, voilà, pas tout droit. Et le nouveau prêtre de ma paroisse a fait une retraite détente prière. Et la détente, c'était le ski. Et moi, je suis du nord-est de la France et j'aime énormément skier. Donc je me suis dit, je vais y aller pour skier. Et puis, donc, j'y suis allée, c'était 3-4 jours dans les Vosges. Et le premier soir, le deuxième soir, j'ai aucun souvenir, en tout cas un soir, après le ski, il a proposé justement d'avoir un temps de prière. Donc si j'avais été faire du ski, je me suis dit que par politesse, il fallait que j'aille à ce temps de prière. Et durant ce temps de prière, difficile d'expliquer hein, quelque chose lors d'une rencontre avec Dieu, mais en tout cas, j'ai compris que Dieu m'aimait, moi, personnellement. Et ça a été un électrochoc. Dieu n'était plus une idée où... J'ai grandi dans une famille catho, hein, mais il n'était plus de l'ordre d'un collectif, plus seulement de l'ordre d'un collectif. Il était... ça devenait personnel. Voilà. Et voilà, suite à ça, j'ai commencé à... J'ai pas changé grand-chose, si ce n'est que je me suis interrogée. C'était l'année de mon bac, hein. Et je suis allée à la messe, mais en changeant un peu ma manière de me positionner. Je me dis, tiens, mais pourquoi il y a telle lecture? Et pourquoi on fait tel geste? Et la participation du corps aussi dans la liturgie, etc. Voilà. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à, parler avec Dieu au quotidien. Puis commencer à... Finalement, c'est ce qu'on appelle prier, quoi. Parler avec Dieu, c'est prier. Et puis ça est revenu, c'est revenu une fois, deux fois, trois fois, de plus en plus souvent. Et alors là, ça commençait à m'inquiéter, parce que je me suis dit, ça n'agirait pas d'être bonne sœur quand même. Surtout pas ça. Et puis et j'ai rencontré une sœur, je lui en ai parlé, et je lui ai dit, mais écoute, je suis troublée parce que je commence à avoir intérieurement des sentiments amoureux pour Dieu. Est-ce que je deviens pas un peu psy, quoi? Enfin, Dieu, personne le voit, mon cœur, il commence à être pris comme on peut être prise avec quelqu'un qu'on aime. C'est bizarre, quoi. Et cette femme, elle a été vraiment super. Elle m'a renvoyé à la parole de Dieu et elle m'a donné plusieurs textes de la parole où Dieu dit son amour pour l'homme. À Jérémie, à des prophètes, quoi, ou à d'autres. Et voilà, il y a une parole qui m'a toujours beaucoup habité, c'est « Tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime ». Et voilà, ça disait bien finalement ce que je commençais à découvrir dans ma rencontre avec le Christ. Voilà, et j'ai fait des études de droit. Puis à la fin de mes études, je voulais rentrer au Carmel, et donc je suis rentrée au Carmel cloîtré. Voilà, je pense qu'en partie j'étais bien et en partie je ne l'étais pas. Et au bout de 6 ans, les sœurs m'ont proposé de prendre un temps de recul. Et fort heureusement, donc je suis partie, j'ai repris mes études tout en travaillant. Et puis je me suis questionnée, vie religieuse, pas vie religieuse, mariage, etc. Bon, le choix vie religieuse, il a été assez clair très vite. Par contre, la question, c'était le lieu, quoi. Est-ce que je retourne au Carmel cloîtré? Quelle est la congrégation où je vais pouvoir exprimer le meilleur de moi-même et où je serai le mieux? Et un jour, j'ai découvert une plaquette Tradition vivante qui était sur le Carmel Saint-Joseph. Et je l'ai lue en entier. J'ai trouvé ça un peu comme les disciples d'Emmaüs quand ils disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» Voilà, c'est exactement ça. Vraiment, il y a tout qui tout me parlait. Et il se trouvait que ça faisait plusieurs mois qu'il y avait une parole de Dieu qui m'interpellait, c'est « Élargis l'espace de ta tente » dans le livre d'Isaïe. Et je l'avais lu une fois, je me dis « Tiens, élargis l'espace de ta tente », ça m'avait interpellée. Et j'étais responsable d'une équipe mèche de 18-24 ans. Et lors d'un témoignage d'un jésuite, il avait parlé de cette parole-là. Je me suis dit, tiens, la voilà qui revient. Et donc, quand j'ai lu cette plaquette sur le Carmel Saint-Joseph, à la fin de la plaquette, c'était écrit en grand « Élargis l'espace de ta tente ». Alors là, ça m'a fait rire. Je me suis dit quand même, une fois, deux fois, trois fois, c'est pas bonjour les dégâts, mais ça fait beaucoup quand même de quoi. Comment je me laisse interpeller par cette parole ? Et donc voilà, j'ai écrit, j'ai dit que je voulais rencontrer des sœurs. Et alors je suis venue à Saint-Guilhem pour le coup. On m'a proposé de venir, je suis passée une semaine ici. Et voilà, j'ai rencontré une sœur tous les jours, on a discuté un petit peu de la vie, ce qu'elle vivait ici. J'ai posé toutes les questions possibles et imaginables. J'ai vu aussi comment elle vivait dans le village, avec la maison d'accueil des pèlerins, etc. J'ai ciré les parquets des chambres. Voilà, et puis suite à ça, j'ai demandé à avoir une deuxième communauté, parce que moi j'avais quand même vécu 6 ans dans un mode de vie, et j'avais un boulot, je travaillais. Et puis, donc voilà, dans la deuxième communauté, j'ai vu que vraiment c'était ça qui allait me rendre heureuse. Donc voilà, j'ai démissionné, puis je suis entrée au Carmel Saint-Joseph, pour faire simple.
Mais qui sont ces carmélites de Saint-Joseph qui, chaque jour, du Carmel à la maison Saint-Élie, un gîte d'étape tenu par les sœurs, en passant par le cloître, l'église, la place et les rues du village, n'ont de cesse de se mêler à la population et d'accueillir touristes, pèlerins ou retraitants? Une question que nous ne sommes pas les seuls à nous poser. 17h, un soir de juin, les pèlerins arrivent à la maison Saint-Élie et c'est sœur Chantal qui les accueille.
C'est moi-même. Oh, mais vous êtes mouillés.
Vous avez refusé. Vous voulez boire quelque chose? Il y a de l'eau fraîche là-bas.
Les pieds sautent en rond et prennent des grenouilles dans un ruisseau. Les pieds sautent en rond et prennent des grenouilles dans un ruisseau.
Qu'est-ce que ça fait les carmélites ordinaires?
Pour moi, les carmélites, par exemple, la fille Jacques, il y avait des carmélites derrière leur clôture. Après, où est-ce que je suis allé au Carmel? Mazy, c'est déjà des carmélites modernes, je dirais. Mais je pense que vous êtes encore une, je veux dire, à part, non?
Disons,
il n'y a pas de clôture.
Non, il n'y a pas de clôture. Nous sommes des carmélites en liberté.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme schisme, comme...
Ah non,
comme abbé de Rancé,
chez vous? Non, c'est pas un schisme, c'est une ouverture.
Non, faut pas prendre au premier degré mes propos.
Écoutez, on a eu une femme qui s'appelait Léontine Jarre, dans le Mâconnais, qui a fondé le Carmel Saint-Joseph. C'est-à-dire qu'elle voulait vivre de la spiritualité du Carmel,
oui.
Mais elle voulait aussi pouvoir aller être en contact avec le monde. Elle avait un frère qui était dans l'industrie, elle voulait absolument aider, continuer. Et donc, elle a trouvé le compromis, c'est de créer son Carmel avec un temps de travail à l'extérieur et après toute la vie du Carmel. C'est-à-dire qu'on vit la spiritualité du Carmel, la vie hérémétique, l'oraison ensemble, matin, midi et soir, la prière, les repas. Et puis en dehors de ça, on est chacune dans nos on ne dit plus cellules maintenant, hein, ça fait un peu. Maintenant on dit chacune chez nous, quoi. Dans sa chacunière on dit. Et donc voilà, et sinon il y a ce va-et-vient toujours.
D'accord. Et alors là, cette mère.
Léontine Jarre, c'est notre fondatrice. Voilà.
C'était quelle époque,
1872.
Ah, quand même.
Quand même.
J'ai cru que c'était plus.
Oh, mais on est jeune, vous savez, par rapport à.
Mais par rapport à Saint-Bruno.
Par rapport à Saint-Bruno.
Je dis ça parce que je suis de Grenoble, donc j'entends. Je parle des Chartreux.
Alors nous, ce qui va caractériser davantage le Carmel Saint-Joseph, et c'est ça que je trouve super. C'est que c'est de répondre aux appels d'une époque. C'est ça.
Il
y a eu un appel ici pour la prière, assurer la prière dans l'église, parce que c'est un monument très visité. Et donc, le prêtre du lieu voulait une communauté qui prie.
C'est vrai que maintenant, les carmélites cloîtrés derrière la grille, là, à l'église, on est.
Mais je vais vous dire, c'est un appel différent.
Bravo, ça c'est une réponse positive.
Oui, parce que beaucoup de gens vous disent, vous c'est bien et tout, mais les carmélites cloîtrés c'est bien aussi. Et Thérèse de Lisieux, vous connaissez Thérèse de Lisieux?
Oui.
Elle est devenue patronne des missions, elle n'a pas quitté son Carmel. Vous ne trouvez pas ça un peu...
C'est un voyage intérieur.
Eh, vous avez tout compris.
Mais enfin bon, c'est pas donné à tout le monde quand même.
Ben non, c'est donné à Thérèse. Et chacun en reçoit en fin de compte. Bon, ben je vois que sur votre vélo, hein, ça...
Il faut de la concentration quand même.
Je suis partie, moi. Vous savez que je faisais les exercices ignatiens sur mon vélo. Dans les côtes, surtout.
Il n'y en a pas beaucoup, à mon avis, qui le font.
Bah, écoutez...
Dans les côtes, ça vous aidait pas mal, je suppose.
Bah oui, j'avais mon livre, là, vous avez la carte. Moi, j'avais mon livre de Saint-Ignace, et voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici.
Vous vous rendez compte ? Vous avez discerné, alors.
Ben oui,
pour venir...
Voilà, bah, tout à fait.
Vous avez une vie, je dirais, civile. Prenez ça, entre guillemets.
Oui, tout à fait. Et c'est après une année sabbatique en vélo, c'est pour ça que je regarde votre vélo, que la question de la vie religieuse s'est posée. J'ai mis 7 ans avant de dire oui. Ah, mais je suis une de récure. Voilà. Et maintenant, vous savez, j'ai fait une pèlerine dans l'âme et maintenant j'accueille des pèlerins.
D'accord.
Seigneur est bon, hein. Allez, je vous accueille. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique en rentrant au Carmel, c'est tout ce temps qu'on pouvait avoir, temps personnel qui nous est donné. Pour pouvoir lire la parole et entrer dans la parole de Dieu. Parce que dans le courant de nos vies, quand on travaille, et que c'est pas toujours évident. Et quand même, le grand danger qu'on peut avoir aussi, c'est d'être pris tout le temps dans cette vie qui nous happe. Mais avoir ces temps qui sont donnés, je rends grâce. Bon, pareil, nous, les offices quotidiens, matin, midi et soir, cette rencontre matin et soir de l'oraison, c'est des rendez-vous... qui structure.
Et qui permet également de vous retrouver tous ensemble.
Oui, ces lieux-là aussi, de pouvoir échanger. Parce que c'est vrai que sinon, ça peut être mon Dieu et moi, moi et mon Dieu et moi. Et il y a quand même cette dimension horizontale qui est essentielle. Parce qu'en fin de compte, plus j'avance dans mon chemin en Carmel, hein, plus je crois que cette présence de Dieu est au cœur de la relation. On a un Dieu trinitaire, on a un Dieu de relation. Mmh. Ce Dieu, il est vraiment... quand je parle à l'autre, même si l'autre n'est pas croyant. Et là, les pèlerins, ils ne sont pas tous des croyants. Hein, c'est pas tous des... Mais il y a quelque chose qui les met en route. Ils ne le savent pas. Et dans la discussion, on a des super échanges avec les personnes. Alors, ce monsieur avec qui j'ai parlé, là, c'est inattendu. C'est des cadeaux.
Nous allons nous rendre à présent à Prouille, au monastère, chez les moniales dominicaines, où il y a quelques années m'accueillait la prieure d'alors, sœur Jean-Baptiste, qui nous a quittés en 2016 pour rejoindre le Père. Un témoignage certainement très émouvant pour tous ceux qui l'ont connu. Sœur Jean-Baptiste ou la vocation dominicaine.
C'est le Seigneur qui m'a conduit ici parce que vraiment j'ignorais tout, presque tout de l'ordre dominicain. Vraiment, j'avais une idée complètement fausse. Et donc c'est vraiment le Seigneur qui m'a conduit ici, oui, avec beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour.
Qu'est-ce qu'il vous a dit pour que vous rentriez dans l'ordre que vous soyez là aujourd'hui?
Alors rassurez-vous, il ne m'a pas parlé en privé. Bon, c'est vrai que depuis toute petite, j'étais vraiment attachée au Seigneur. C'est vraiment le visage du Christ Jésus m'a toujours parlé. Je me souviens d'une messe où ma marraine m'avait accompagnée. Et puis, comme je ne comprenais rien, parce que j'avais 5 ou 6 ans, je feuilletais son gros livre de messe. Et je suis tombée sur une petite image qu'elle avait du Christ avec une couronne d'épines. Et je me souviens qu'à la sortie, je lui ai dit, mais qui c'est? Et elle m'a dit, c'est Jésus. Et je lui ai dit, mais Jésus, qui c'est? Alors elle m'a dit, mais c'est Dieu. Bon, je ne comprenais pas trop. Puis elle m'a expliqué, et surtout, je lui ai dit, mais pourquoi il a du sang? Elle m'a dit, mais c'est le sang qu'il a versé parce qu'il a donné sa vie pour nous. Alors ça, c'est une phrase qui est toujours restée dans mon cœur. Il a donné sa vie pour nous. Et en fait, au fur et à mesure que les années ont passé, ben, j'avais envie, moi aussi, de répondre à cet amour où il a versé son sang pour nous et de lui offrir ma vie. Voilà. Alors c'est vrai que les années ont passé, j'ai fait mes études, et puis je pensais plus à l'ordre cistercien, parce que je voulais vraiment donner ma vie de manière absolue, dans le silence. Voilà. Et puis je travaillais dans l'Action catholique des enfants, la CE, et j'étais en lien avec donc beaucoup de prêtres, et l'un d'entre eux me parlait toujours de ses sœurs, une qui est bénédictine et l'autre dominicaine, et il me disait toujours, ben, faut que tu ailles les voir, en fait, etc. Et puis je faisais des études d'histoire, et un jour j'ai voulu aller à la cité de Carcassonne pour prendre des photos, voilà, parce que j'aime beaucoup le roman, et puis l'époque du Moyen-Âge. Et donc je suis partie pour aller à Carcassonne, et à la croisée des chemins, j'ai vu monastère dominicain, Sainte-Marie de Prouille, berceau de l'ordre dominicain. Dans ma tête d'étudiante en histoire, berceau de l'ordre dominicain, ça a fait 13e siècle, et j'ai dit 13e siècle, oh, de l'art roman, je vais faire le détour. Donc je me suis arrêtée, j'ai laissé ma voiture au fond de l'allée. Au fur et à mesure que je m'approchais de cette grande basilique, je disais, mais vraiment, ce n'est pas de l'art roman, ce panneau est trompeur. Et je suis rentrée dans ce grand espace assez désaffecté. J'ai tourné un peu en me disant, ben oui, c'est du romano-byzantin, mais c'est pas médiéval. Donc en cherchant un peu, j'ai fini par trouver la chapelle. La chapelle était obscure, je me suis assise, j'ai prié, mais j'ai été quand même, enveloppée par le silence de ce lieu, mystérieusement, qui n'avait rien de beau. Et peu après, j'ai entendu une cloche, et puis il y a une sœur qui est arrivée, qui m'a dit, il va y avoir l'office des vêpres, vous voulez rester? Alors, tout à fait, je vous apporte de quoi suivre, voilà. Et au fur et à mesure, de l'autre côté, j'ai vu arriver les sœurs, de blanc vêtues, je ne connaissais pas du tout, parce que je connaissais plutôt le monde bénédictin ou cistercien. Donc, tout en blanc, j'ai dit, oh, c'est beau cet habit, plein de lumière, voilà. Puis les sœurs sont rentrées, elles avaient l'air assez, j'allais dire, décontractées. L'office a commencé, c'était beau. Et puis, il y en a une qui s'est levée pour aller lire la parole de Dieu. Puis, elle s'est trompée. Et j'ai vu un sourire flotter sur tous les visages. Et j'ai dit, oh, ces sœurs sont libres. Elles ne sont, sont pas dans un carcan. Elles ne sont pas aigries, étroites. Ah, j'ai dit, ça, c'est un lieu qui me plaît. Et voilà. Donc, je suis restée jusqu'à la fin de l'office des Vêpres. Et tout à fait à la fin, j'ai réalisé que c'était le lieu dont me parlait le prêtre. Donc j'ai demandé à voir cette sœur, dont je ne connaissais que le nom. Et la sœur à la porterie m'a dit, ah, je vais voir parce que maintenant c'est l'heure de l'oraison et normalement il n'y a pas de parloir, il n'y a pas de rencontre. Mais je vais demander à notre mère prieure. Donc elle revient un petit peu après et elle me dit, ben, la prieure permet, puisque vous êtes juste de passage, que vous rencontriez cette sœur. Donc j'ai rencontré cette sœur et puis elle m'a parlé de la Saint-Dominique. Elle me dit, mais il faut revenir au moment de la Saint-Dominique. Il y a 3 jours avant pour préparer la fête, venez à l'hôtellerie, voilà. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Et le jour de la Saint-Dominique, eh bien, pendant l'Eucharistie, je me souviens, au moment du Notre Père, j'ai eu la conviction intime que c'était dans ce lieu que le Seigneur m'appelait, alors que je ne connaissais rien de ce lieu, seulement des impressions. Voilà. Mmh. Et après, j'ai commencé, je suis venue régulièrement à l'hôtellerie, mais je n'ai rien dit à personne, surtout pas. J'ai continué mes études, voilà. Et puis un jour, j'ai dit quand même, il faut que je rencontre la prieure, il faut que je lui dise, voilà. Alors je l'ai rencontrée, puis je lui ai dit que je pensais que j'avais la vocation, que le Seigneur m'appelait dans ce lieu. Et j'étais sûre qu'elle allait être contente et tout. Elle me dit, faut finir vos études. Donc je finis mes études. Une fois que je finis mes études, je reviens la voir. J'ai dit, ça y est, j'ai fini. Et puis elle me dit, maintenant, faut travailler parce que on rentre pas comme ça au monastère. Faut avoir une expérience de travail pour que votre choix soit vraiment libre et que vous sachiez aussi qu'est-ce que c'est que vous laissez et ce à quoi vous renoncez. Oui, voilà. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans. Je venais régulièrement à mes vacances scolaires. Donc, dans la communauté, pour partager la vie, l'espace d'un week-end ou l'espace de quelques jours. Et ces stages m'ont permis de réaliser que c'était vraiment ce que je cherchais, ce à quoi le Seigneur m'appelait. Ouais. C'était vraiment mon lieu, cette communauté. Tous mes séjours m'ont ancré dans cette perception initiale que j'avais eue, à la fois un lieu joyeux, un lieu où les sœurs étaient libres, un lieu de grande ferveur, de prière, quoi, et un lieu ouvert au monde.
Dernier visage pour aujourd'hui de ces vies consacrées, celle des vierges consacrées. Au service de l'Église, les vierges consacrées mènent une vie de chasteté et de prière tout en vivant au cœur du monde et en exerçant une activité professionnelle. Une seule et même vocation vécue dans une grande diversité. Odile Robert et Marie-Anne Lacombe.
Le travail, c'est une nécessité, mais c'est aussi une joie. Par le travail, on est inséré dans la vie des hommes. On partage leur joie, leur peine. On contribue à l'édification de la cité. Et c'est un élément, à mes yeux, un élément essentiel d'équilibre, de réalisme. Notre vocation est tournée vers le royaume, mais elle ne nous arrache pas aux réalités du monde. Et ça, c'est vrai, c'est une tension, c'est un combat pour harmoniser l'ensemble. Il y a le travail, il y a le service de l'Église, la prière sur laquelle on pourra réinsister. Et il faut vivre cela de façon ordonnée. C'est un combat jamais achevé pour un amour ordonné. Une vierge consacrée n'a jamais fini de mettre sa vie en ordre.
Oui, Odile, vous étiez enseignante, vous avez travaillé de longues années, vous étiez professeure d'histoire, et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, ça y est, ici, je ne le savais pas, et je me suis dit, je suis chez une historienne. Il n'y avait pas à s'y tromper.
Merci Marie-Pierre. J'ai enseigné dans l'enseignement public. Je n'ai jamais porté de signe distinctif, sinon le chrisme à mon cou, sur lequel les élèves me posaient toujours une question. Mais il m'arrivait parfois dans les couloirs d'entendre « Voilà la bonne sœur !» Tout ça, c'est un mystère, on laisse les choses au Seigneur et voilà, il retrouve les siens.
Comment vous étiez perçue, justement, dans votre travail ?
Je ne fuis pas la question, mais j'avoue ne pas me l'être souvent posée. Voilà. J'ai vécu comme je croyais devoir vivre, en espérant des retombées. en me disant aussi qu'à l'égard des élèves, pour faire des chrétiens, il faut faire des hommes. Il faut faire des intelligences, il faut faire des cœurs. Voilà. Je sais qu'à dans mon lycée, ma mission n'était pas la même que quand j'étais responsable de l'aumônerie, jamais de l'aumônerie du lycée dans lequel j'ai enseigné.
Réveillez le monde, soyez témoins d'une autre façon de faire, d'agir et de vivre. Voilà ce que le pape François a demandé aux religieux avant de dédier l'année 2015 à la vie consacrée. Par leur mode de vie qui rappelle celui du Christ, les consacrés sont un peu comme des phares, des aiguillons pour nos vies de baptisés.